Bonjour, c'est donc le troisième lundi du mois, Radio Libertaire, la voix sans lunimètre de la Fédération Anarchiste, sans lunimètre ni publicité. Vous êtes avec nous, avec un petit peu de retard comme d'habitude, pour cette émission, La santé dans tous ses états jusqu'à 19h30. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Sagnier. Bonjour Christine Sagnier.
Bonjour.
Pour son livre paru tout récemment aux éditions Zinédie, son livre intitulé « Roméo à la folie », donc un roman, et j'insiste sur le mot « roman », on va revenir là-dessus pour expliquer tout ça. Un livre consacré à l'histoire d'une famille confrontée à, comment dire, confrontée à l'ébullition, à la crise volcanique d'un adolescent.
Oui.
Alors tout d'abord, en deux mots, vous pouvez vous présenter. Vous êtes écrivain, écrivaine ?
Écrivain, je dirais.
Voilà, écrivain,
je
d'accord.
Je suis écrivain. Enfin, j'écris pas mal en jeunesse et j'ai aussi écrit un récit et deux romans précédemment.
D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas votre premier ouvrage. Vous avez déjà quelques ouvrages à votre actif. Et alors le sujet de ce roman, c'est... Vous allez nous l'exposer. C'est comment, qu'est-ce qui se passe dans une famille lorsqu'un jeune adolescent de cette famille est confronté, c'est le titre, à la folie.
Tout le monde est confronté à la folie.
Voilà,
je pense qu'à ce moment-là, en pleine crise, c'est la famille entière qui peut sombrer dans la folie. Et donc c'est un engrenage assez infernal, dès lors en plus que l'on aborde les soins psychiatriques.
Alors, la toute première page de votre roman, vous décrivez donc une scène, vous arrivez avec un grand garçon d'1m80 passé, tout en muscles, tout en rage, et la seule pensée en tête de la narratrice, hein, c'est gardez-le. Là, vous arrivez donc dans un service, je dis vous, mais on va voir.
Oui.
La narratrice arrive dans ce service d'urgence psychiatrique. Elle a qu'une seule idée en tête, c'est qu'on garde son adolescent, son fils.
Donc c'est le fruit de notre expérience,
voilà.
En partie, d'autres témoignages aussi recueillis au cours du temps. Et donc nous, effectivement, nous avons connu ça avec notre fils. Arrivé à un stade, un moment de cette crise où... plus rien n'est possible en famille, où tout devient vraiment dangereux, il y a un vrai risque après, on a décidé, on s'est battu pour le faire interner, enfin hospitaliser, parce que interner finalement, je crois qu'on ne le voyait pas comme ça, hospitaliser en psychiatrie, et ça a été une véritable bataille, mais un soulagement, effectivement.
Il y a deux choses là qui sont tout à fait intéressantes dans ce que vous venez de dire, c'est d'abord... vous dites que vous vous êtes battu pour qu'il puisse être hospitalisé, comme si il y avait une espèce de résistance de l'institution contre l'hospitalisation. Et puis vous dites aussi que c'était pour vous la solution. Il fallait absolument qu'il soit pris en charge. Qu'il fallait.
Pour nous, c'était l'unique solution, effectivement.
Mais excusez-moi. Oui. Pourquoi il a fallu se battre ?
Se battre parce qu'on ne nous croyait pas. Parce que notre fils présentait des troubles, je dirais, c'était au sein de la famille uniquement. La plupart du temps, toutes les crises avaient lieu, les crises extrêmement violentes, hein, au point que il est arrivé quand même qu'il tente de sauter par la fenêtre, comme ça, dans une impulsion. Et donc des choses vraiment très dangereuses, en fait. Et personne ne se rendait compte de ça, parce que à l'extérieur, il était, somme toute, absolument pas délinquant, pas excité, et donc très aimable aussi, souvent. Et à part au niveau scolaire, où il se laissait totalement aller, c'était une vraie dégringolade, personne ne se rendait compte, en fait, de l'ampleur de la situation. Et je crois que quand on est arrivé aux urgences, le psy, réellement, bon, ça a été dit plus tard, nous a mis tous dans le même sac. Et puis les parents, a priori, quand même, des préjugés assez lourds. Notre fils étant adopté, il nous a proposé un foyer. Et pour nous, c'était la dernière solution, un foyer.
On va remonter un petit peu le temps. Là, vous l'avez juste évoqué. Donc, votre fils, il est adopté. Mm-hmm. Il vient d'un pays africain.
Oui. Hein? Oui.
Il arrive, vous le recueillez chez vous, alors qu'il a l'âge officiel de 4 ans et demi.
4 ans et demi, oui, 4 c'est
ans
ça.
Et demi. Ouais. Vous dites dans votre roman qu'en fait, c'est pas vraiment son âge.
Non, alors c'est un grand classique, en fait, d'adoption. Souvent, l'âge des enfants, effectivement, est revu à la baisse pour permettre des adoptions, ce qui en soi se comprend, mais après... ça crée aussi de gros soucis pour les enfants, je pense. Enfin, de mon point de vue, et ce que l'on en a vécu, nous avons tout de suite, effectivement, observé que notre fils n'avait pas du tout l'âge prétendu. Donc, on a fait en sorte de rétablir sa date de naissance, enfin, une date de naissance la plus proche du réel sur son état civil. Il n'empêche qu'on s'est certainement trompé d'un an et qu'il nous en a voulu, mais de façon extrêmement violente, comme si on lui avait volé cette année intentionnellement, en fait. Et quand il était dans sa phase, justement, très compliquée, dans cette espèce de chaos, il avait l'impression vraiment qu'on le persécutait et que ça faisait partie, je pense, un peu de cette persécution, cette année volée, voilà.
Ces troubles se sont installés progressivement finalement, parce que vous dites et vous expliquez que les premières années, vous avez des rapports qui sont très forts.
Oui.
Il réclame beaucoup votre présence.
En recherche de beaucoup d'amour. Oui. Ça, c'est vraiment et des cycles s'installer d'amour-haine en fait, puisqu'il n'obtenait pas en fait. À ce moment-là, je pense qu'il voulait toute la place. Mmh. C'est-à-dire qu'il aurait éliminé, nous avons un fils aîné, il aurait éliminé, je pense, notre fils aîné, éventuellement mon mari, pour avoir toute la place, parce que il avait eu un tel manque, je pense, et sa construction est faite de telle manière qu'il lui faut, d'une certaine manière, quelque chose de passionné et un amour à 100%.
Comment ça se passe lorsqu'on adopte un enfant qui vient de loin, qui vient d'un autre pays, d'une autre culture, qui n'a pas la même, même physique, la langue, etc. Enfin, il y a beaucoup de... Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce qu'il y a une aide, je ne sais pas, psychologique, sociale? Ou alors on vous balance l'enfant dans les pattes et débrouillez-vous?
Oui, c'est ça. Enfin oui, c'est tout à fait ça d'ailleurs. Ouais. On a revu... épisodiquement, mais peut-être tous les deux mois, une assistante sociale de la DAS, qui était d'ailleurs très très bien. Mais à part ça, non, rien. Mais à la fois, les choses, je dirais, se sont faites très très naturellement. Quand on est allé chercher notre fils à l'aéroport, pour nous, c'était une évidence. Peut-être que pour lui, ça l'était effectivement moins, mais à la fois, je pense, et j'en suis à peu près persuadée, qu'il désirait aussi ça. Il le désirait et... Enfin, c'est sûr et certain, parce qu'on en a parlé depuis, dans les orphelinats, on les incite, enfin, par tous les moyens, en leur expliquant que là-bas, dans ce pays très lointain, ils auraient à peu près tout ce qu'ils désirent. Donc, histoire de les motiver à partir. Donc, pour lui, c'était aussi probablement une évidence qu'il recevrait tout ce qu'il voulait.
Vous décrivez son arrivée, là, dans le deuxième chapitre, là. Tout avait commencé par un échange de regards à l'aéroport, le coup de fil, je te reconnais, tu me reconnais, nous, parfaits étrangers, désormais liés pour la vie. C'est très fort ça, votre première rencontre. C'est quelque chose de... Puis on sent que derrière ça, de votre côté aussi, il y a une attente.
Oui.
Les démarches ont duré combien de temps?
Les démarches, nous, ont duré 5 ans.
Ouais, 5 ans.
Alors là, en plus, dans mon personnage, dans ce roman, ils n'ont pas d'autres enfants. C'est 5 ans d'une attente, enfin là, peut-être 3 ans. Mais ce sont des gens qui, en plus, je pense, parfois, l'infertilité ou la stérilité rend le contexte encore différent et très, très compliqué. Hein, même si moi, je l'ai vécu aussi, bien qu'ayant eu un autre enfant. Et du coup, effectivement, il y a une attente énorme, en fait.
Donc, vous investissez et surinvestissez certainement énormément.
Bien sûr, bien sûr. Et il faut à la fois, puisque cet enfant ne parle pas notre langue. Et il découvre un autre monde. Il arrive sur Mars un petit peu. lieu aussi quand même, parce que donc notre fils arrivait de lieux quand même. Enfin, il avait vécu dans la misère en Afrique et bon, il avait tout à découvrir et il voulait tout découvrir. Il était extrêmement curieux.
Oui, là vous dites, il arrive un jour d'hiver, puis un jour d'hiver dans la région parisienne où exceptionnellement il y a de la neige.
C'était
et
miraculeux.
C'est le premier contact donc avec tout ce blanc qu'il découvre pour la première fois. Et il y a un passage qui est très 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 amusant et très touchant en même temps. C'est lorsqu'il pose la main sur la neige et puis qu'il s'aperçoit du contact
très froid.
Donc vraiment un enfant qui découvre avec des yeux d'enfant, quoi, un monde qu'il ne soupçonne même pas. Et donc on se dit, au vu de cette rencontre extraordinaire, pleine de promesses, en fait, que les choses vont être merveilleuses. Et c'est ce que vous vous dites. C'est magnifique. Enfin,
c'est vrai. Hein. Oui, je pense que de toute façon, en tant que parent adoptant, on a tellement de désirs, tellement d'envie, et puis on pense très sincèrement. Ça, je le suis persuadée que l'amour fera énormément. Évidemment, il y aura quelques écueils, mais bon, on n'imagine pas ce qui va se passer. Ça, je pense qu'on n'imagine pas. On est quand même très peu prévenus des suites éventuelles et de cette adolescence qui peut se compliquer énormément.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir parmi les parents qui en même temps que vous, ont accueilli ce petit groupe d'enfants qui venaient d'Afrique? Est-ce que vous avez l'occasion de revoir certains, de discuter avec certains au vu de votre expérience ou pas du tout? Chacun part dans son univers et puis hop, terminé.
Chacun part dans son univers, effectivement. Mais en ce qui nous concerne, nous étions liés d'amitié avec un couple comme ça avant d'adopter, vraiment. Et eux ont adopté deux enfants dans le même orphelinat et du même âge, en fait, que notre fils. Et ils ont ils sont passés par à peu près les mêmes étapes que nous.
Oui.
D'une autre manière, mais tout aussi dramatique.
C'était aussi difficile.
Ouais.
Donc c'est pas un cas isolé. C'est pas
je ne pense pas. J'en suis sûre d'ailleurs parce que l'on connaît beaucoup. C'est aussi une question parce qu'on connaît beaucoup de parents qui ont adopté. Et de différentes manières. Certains ont adopté, entre autres, vraiment sont allés récupérer, cueillir leur enfant presque dans une clinique aux États-Unis. Et pour autant, on pourrait dire que notre fils est arrivé à 7 ans et que tout s'explique, et ça s'explique effectivement par les traumatismes, les pertes et l'abandon. Mais ces parents-là, donc, qui ont eu leurs enfants vraiment à la naissance, ont eu aussi des problèmes considérables. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que l'abandon en soi est un traumatisme dont on se remet aussi difficilement. Le passage du ventre de la mère à plus rien, certainement à un moment donné, enfin, il y a une telle coupure, une rupture. Je pense que c'est vraiment tombé dans...
C'est intéressant ce que vous dites. Alors, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas de théorie vraiment, si pour autant qu'il puisse y en avoir sur cette situation. Mais c'est important au moment où on parle actuellement beaucoup de GPA, de grossesse pour autrui. Mmh. On connaît toutes les avancées qu'il y a eu sur des notions comme la PMA, la procréation médicale assistée, qui est un autre cas, qui est bien différent, qui s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes et pas dans les mêmes circonstances. Et là, il y a toute une discussion sur la grossesse pour autrui. Alors, pour, contre, les débats sont extrêmement vifs à ce sujet, qui mêlent à la fois des considérations éthiques, philosophiques, hélas aussi religieuses. Je dis hélas parce que je ne vois pas pourquoi la religion devrait se mêler forcément de ça comme elle se mêle d'autres choses qui ne la regardent pas. Nous sommes sur Radio Libertaire, la boisson d'Unimètre, je le tiens à le préciser. En tout cas, la grossesse pour autrui est actuellement pose des tas de questions, semble répondre à certaines problématiques, mais en poseront certainement d'autres aussi. Et ce que vous dites sur l'adoption, justement, montre bien que c'est quelque chose de très très compliqué. Alors, il peut y avoir certainement des adoptions qui se passent bien.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi des enfants résilients.
Oui.
Je pense qu'il y a ça, mais il n'en reste pas moins que ce qui je reviens sur ces questions d'abandon. En fait, on a tendance à porter au nu quand même cette période justement de la grossesse, à dire combien l'enfance, combien c'est important, la mère, la relation à la mère pendant toute cette période-là. Et on ne conçoit pas quand même la violence donc de l'abandon. Pourquoi ?
Oui. Oui, bien sûr. Alors, très étonnamment, on a quand même vécu pendant des très longtemps, peut-être des siècles, hein, dans l'abandon comme unique moyen de, parce qu'il n'y avait pas de contraception,
oui.
Hein,
oui.
Et les femmes qui voulaient pas faire l'infanticide, c'est ce qui se passait, hein, malheureusement, les infanticides à la naissance ont été pendant très longtemps extrêmement fréquents parce que les femmes ou les familles n'étaient pas peut-être pas dans la possibilité d'accueillir un enfant supplémentaire. Et pour pallier à ça, donc, il y avait cette espèce de, vous savez, le tourniquet, hein, où on mettait l'enfant, les institutions religieuses, ce qu'on appelait, ce qui tenait lieu d'hôpitaux, avait mis à la disposition des jeunes mères qui voulaient se débarrasser d'un enfant, ce tourniquet qui leur permettait anonymement de poser l'enfant, et puis une cloche sonnait, on tournait le tourniquet, et puis une bonne sœur venait récupérer le nouveau-né sans avoir vu qui était la mère. C'était une façon d'éviter justement ces infanticides et de permettre à ces jeunes mères de laisser vivre leur enfant dans des conditions les moins dramatiques possibles. Donc l'abandon, ça a été très longtemps. Alors ça veut pas dire que c'était quelque chose de bien et normal, pas du tout.
On ne sait pas comment ces enfants finalement ont vécu tout ça.
J'imagine
on ne peut pas juger non plus la personne qui abandonne. Enfin,
ces institutions qui recevaient ces enfants devaient certainement pas les recevoir dans des conditions d'amour et d'affection telles qu'on aurait pu imaginer, telles qu'il aurait souhaité. Donc on est toujours dans ces questions. Alors ça change aujourd'hui, on est dans un autre système où l'adoption en France en plus est très 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 compliqué, je crois, pour pouvoir adopter.
Pour nous, ça a été très compliqué.
Il y a des démarches
très longues,
difficiles.
Nous avons mis 5 ans parce qu'on a changé finalement l'âge. Enfin, notre demande, on doit poser une demande de tel âge, évidemment, éventuellement un enfant de quelle origine. Enfin, bon, ça, on était ouvert à tout aux quatre coins du monde. Enfin, on n'avait pas fixé sur une origine ou une autre. Et donc, on a été obligés, puisque le temps passait, comme on avait un fils aîné et que nous, on se voyait de moins en moins pouponné. On est passé de 3 ans à 5 ans. Voilà. Puis finalement, on a eu un enfant de 7 ans.
Oui, et puis vous êtes passé par une association, c'est ça ?
Ce sont
des associations qui... Alors, il y a quelques années, il y a eu ce scandale d'une association qui avait fait beaucoup parler d'elle. Je ne me rappelle plus le nom de cette association.
Oui, c'était d'ailleurs en Afrique.
Oui, c'était au Tchad, où il y avait un trafic d'enfants, en fait, des enfants qui étaient plus ou moins achetés à leurs parents géniteurs, qui n'étaient pas vraiment orphelins. Enfin, ça avait été quelque chose d'assez grave, quand même, et avec des peines de prison prononcée à
C'est vrai,
de
mais
ça.
Je sais que nous, en ce qui nous concerne, en fait, nous avons adopté en Éthiopie. Et l'Éthiopie a changé après ses procédures d'adoption parce que les choses allaient tellement, tellement, tellement vite qu'effectivement, ils n'étaient pas assez pointilleux, certainement, sur certaines histoires, en fait. Et on a quand même eu vent par les enfants, par nos enfants, nos amis et nous, justement, ces amis qui ont également adopté en Éthiopie, de pratiques assez étranges, hein, quand même. Enfin, les enfants, visiblement, j'ai l'impression que les enfants sont quasiment sur des listes d'attente pour l'adoption. Et puis, on affiche après, dans le village, les enfants qui vont partir à l'adoption. C'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Ouais. Et notre fils, nous, n'avait pas été prévenu. Il est passé. Sa mère l'a déposé dans une voiture et il est parti à l'orphelinat comme ça, sans préparation, sans rien. Enfin, la fois.
Donc, avec Christine Sani, nous avons évoqué dans la première partie de notre émission toute cette phase de l'adoption de Roméo. Qui vient donc d'un pays africain, qui débarque de l'avion à Roissy en plein hiver et qui découvre la neige, le froid et puis sa famille d'adoption. Un accueil et une attente extraordinaire. Et puis ça va se compliquer après, c'est ça ?
C'est ça.
Mais c'est pas tout de suite. Comment ça se passe ?
Si, il y a des signes.
Il y a des signes.
Des oui. signes que, en fait, moi, à l'époque, j'étais quand même la seule à m'en rendre compte parce que mon fils était très, très proche de moi. Ouais. Et puis je travaille à mon domicile, donc c'est vrai que j'allais le chercher à l'école. J'étais vraiment en permanence avec lui. Oui. Et mon mari ne se rendait pas compte de certaines choses. Et je pense qu'en plus, cette relation très forte induisait justement ces comportements, en fait. Les comportements, c'était...
Vous décrivez une colère au magasin, dans le supermarché.
Des colères assez phénoménales. Oui. Beaucoup de mensonges, quand même.
Oui.
Et probablement dû au fait que la peur de ne pas être aimé tel que l'on est fait que l'on ment aussi. Parce que certainement, cette peur d'être abandonné, qui est, je pense, vraiment quelque chose qui perdure, à mon sens, toute la vie. Et du coup, pas être sûr que l'autre vous aimera s'il vous voit tel que vous êtes. Et comme je pense que souvent, enfin, dans cette personnalité-là, notre fils avait une sorte d'idéal. Tout est des choses, tout doit être parfait. Mmh. Et lui n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Ni les uns ni les autres ne l'étions.
Rassurez-vous, moi non plus.
Voilà. Ouais, mais finalement, au cours de toute cette... Oui, mais on aurait pu croire devoir être parfait, je vous assure, de temps en temps. Et donc, il y avait ces mensonges, une forme de manipulation pour maîtriser le monde aussi autour de lui. Voilà.
Oui, et donc, il y a une petit à petit, comme ça, des signes avant-coureurs qui vous... Est-ce que ça vous alerte à ce moment-là, vous vous dites...
Assez rapidement, on est allé voir une première fois une psychologue.
D'accord. Contact avec les psychologues, il est très tôt, donc dans ce cas-là, il arrive...
Je pense qu'à 9 ans.
D'accord, donc ça fait 4 ans qu'il est chez vous.
Oui, oui.
D'accord.
Mais très tôt, moi, j'avais fait des recherches autour de l'adoption et beaucoup, justement, en lisant beaucoup de choses, d'études... de Canadiens, en fait, qui sont vraiment très pointus là-dessus. Ouais. C'était très intéressant. Et puis après, les choses se sont dégradées, arrivées en sixième. Et je pense que la sixième, c'est un moment charnière aussi pour les enfants. La peur, c'est un peu une ouverture au monde aussi qui devient compliquée. C'était un excellent élève. Il a commencé un peu à se laisser aller. Il n'avait pas du tout confiance en lui. Se dévalorisait beaucoup. N'acceptait plus, nous parlait de moins en moins. Et ça, déjà petit, il avait une tendance à bouder. Mais après, ces bouderies se sont transformées en mutisme qui pouvait durer une semaine. Et puis après, on a eu droit à un mutisme de quasiment 2 ans, je dirais. Donc ça, c'est très, 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 très lourd.
Oui. Oui. Mais cette première psychologue que vous voyez lorsqu'il a 9 ans, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme...
Elle nous dit que cet enfant est trop aimé.
Oui.
Voilà.
Elle vous dit ça ?
Elle nous dit ça. Bon, nous sommes repartis.
Oui.
C'est tout. Et donc, on n'est pas retourné voir qui que ce soit, mais les choses se sont gâtées. Et on a fini par aller, quand il avait 13 ans, dans un CMP.
Centre médico-psycho-pédagogique.
Le psychiatre était, je pense, très bien, mais impuissant. D'abord, notre fils ne parlait pas, il ne lui parlait pas non plus. Et à un moment, il nous a dit quelque chose qui s'est avéré très juste. Il nous a dit, au bout d'un an de prise en charge, mais qui avait lieu tous les 3 semaines, donc déjà une prise en charge tous les 3 semaines avec un ado qui ne veut pas parler, on peut dire que bon, ça ne va pas, quoi.
Ouais.
Et il nous a dit, vous êtes au milieu du gué, tenez bon, continuez comme ça, vous verrez plus tard, il vous en sera reconnaissant et les choses... Alors, maintenant, avec le recul, on se dit, oui, effectivement, il a retenu beaucoup de choses que l'on lui a dites, mais nous n'étions pas au milieu du gué, nous avions à peine mis un orteil dans ce torrent
tumultueux.
Ouais.
Oui, là on a le sentiment en vous écoutant et puis en lisant le. En lisant votre roman, j'insiste sur le mot roman parce que vous tenez.
Roman drôle en plus, quand même. J'insiste.
Ah oui, c'est pas pleurnichard.
Hein. Non.
D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant et intéressant dans cette écriture, c'est que vous ne vous plaignez pas. En fait, il y a pas de, c'est pas une plainte. Alors, on sent que vous êtes remonté quand même. Hein.
Oui.
Vous êtes remonté, puis on va développer plus tard. Vous êtes remonté contre l'institution psychiatrique, mais ça, on va en reparler. On va développer cet aspect-là. Mais en même temps, vous êtes combative.
Oui.
Hein,
oui,
vous ne laissez
vrai,
pas.
Oui.
Bon.
C'est ça.
C'est l'aspect que vous donnez à votre narratrice qui vous ressemble beaucoup et qui et vous avez certainement avec elle plein de points communs, j'imagine.
Oui, sauf que elle a tendance. Moi, j'ai peut-être plus les pieds sur terre. Elle finit par ne plus les avoir du tout sur terre.
Oui, ça c'est là. On ne va pas dévoiler tout de suite la suite. Mais j'ai noté à un moment donné, vous avez avec votre mari donc certaines règles que vous essayez de mettre en place à la maison. Bon, vous dites voilà, pour les goûter, il va pas manger n'importe quoi, il va pas s'habiller n'importe comment.
Oui.
Enfin, vous essayez de mettre en place des règles. Chaque famille
éduque ses enfants
avec les règles dont il estime qu'elles sont alors c'est pas pour autant qu'on est libertaire, mais on a certaines règles et un cadre pour permettre la vie
pour
en commun
dire.
Mais on vous dit que vous en faites trop. Qui vous reproche?
À peu près tout le monde.
Tout le monde vous reproche.
C'est-à-dire à la fois
vous êtes trop rigide.
On ne le comprend pas cet enfant, on ne le laisse pas vivre, on ne l'a pas pris comme il était au départ. On en a entendu. Enfin, à la fois des proches, des amis, de certains amis. Et effectivement, des psys, quels qu'ils soient, ou infirmières psychiatriques et autres. Une infirmière psychiatrique nous a donc dit aux urgences, vous ne l'avez pas pris, un enfant, ça se prend comme il est, les choses se sont passées au départ, et voilà. Grosso modo, vous êtes planté sur toute la ligne.
Oui.
Donc c'est réconfortant, quand vous venez de chercher de l'aide, quand même.
Bien sûr. Mais alors, il s'installe comme ça dans son mutisme ?
Oui.
Ça doit être terrible, ça, pour des parents d'être confrontés à... Déjà, quand on est confronté à une personne qui parle pas, c'est compliqué, mais avec une personne, un enfant, jeune adolescent à la maison qui dit rien
et que l'on sent mal.
En plus.
Parce qu'on se dit, il va mal. S'il dit rien, c'est qu'il va mal.
Bien sûr.
Et on le sent, surtout dès qu'il rentre à la maison, il s'enferme dans sa chambre. Au départ, il l'a laissée toujours ouverte pour s'assurer, certainement, entendre les bruits. Et puis après, il a fini par la fermer. Mais il s'allonge sur son lit et il ne fait rien.
Il y a une sorte d'aboulie de...
Oui, il est amorphe. Il y a quelque chose d'étrange. Donc, ne voulant plus manger avec nous, ne voulant plus nous parler, ne voulant plus suspendre même ses vêtements dans la même penderie que nous, tout devenait assez étrange et ne voulant plus du tout entendre sur tout ce qu'on lui disait, rentre à telle heure, travaille à l'école, travaille, est-ce que tu as fait tes devoirs? Enfin, il y a un moment où, en tant que parent, c'est normal, c'est pas.
En dehors de la maison, il a des amis, il a des copains.
Il avait des copains. En ce qui nous concerne, oui, notre fils avait des copains, avait besoin certainement de ce groupe, mais jamais, je pense, à l'époque, une amitié très forte, très suivie non plus. Ouais. Ou alors, souvent, allant vers d'autres adolescents pas très bien non plus.
Ouais.
Et puis, il m'a dit plus tard comme lui nous critiquait énormément, ce qui ne lui a pas fait de bien, mais ce qui était comme ça, c'était des ados. Les ados, ses amis, ont renchéri et donc nous étions les plus mauvais parents de la Terre.
Oui. Donc, ça va durer comme ça un certain nombre d'années.
Oui.
Alors, à un moment donné, on en vient à cette infirmière là, de psychiatrie qui vous a... culpabilisée, hein, de toute manière, hein,
oui,
qui vous a même
malmenée,
alors que vous étiez venu auprès d'elle chercher de l'aide et un soutien. Et elle vous apprend que votre fils,
c'est assez vrai, oui.
Travaille sur le marché une fois par semaine.
Ah, ça, on le savait. Mais on n'était pas d'accord, mais à un moment, on a lâché. Et puis, parce que ce que l'on voulait, nous, c'est qu'il travaille à l'école plutôt que sur le marché. Bon, à 14 ans, ça nous semblait assez logique. Et elle nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il est très courageux, c'est rare. Mais c'est ce qu'on expliquait, tous nos amis nous disaient la même chose. Mais nous, ce que l'on voulait, c'est qu'il travaille à l'école. Le marché, c'était accessoire. Éventuellement, s'il avait travaillé à l'école, on était d'accord pour le marché. Mais en fait, on ne pouvait plus, il y a un moment, on cède sur des choses pour essayer de tenir un petit peu des comportements, enfin, voilà, tenir certaines règles, en fait. Et on apprend aussi le pétard.
Voilà, c'est ça. Vous allez y venir, justement.
La consommation de cannabis.
Bon, bah ça, c'est fréquent. Enfin,
c'est vrai.
Aujourd'hui,
c'est
vrai. Le nombre de gamins qui n'ont pas touché à l'âge de 15 ans cannabis, il est ridicule, quoi.
C'est pas très réconfortant non plus.
Voilà. Ouais. Mais oui, bien sûr. Et après, il y a des façons de. Il y a des gamins qui s'en sortent plutôt pas trop mal et qui passent à travers ça sans trop de dégâts.
Mais certains ont une fragilité.
Voilà, sont fragiles et puis ils tombent très vite dans une addiction. Une addiction qui peut être très préjudiciable pour leur santé, leur santé tout court et leur santé mentale. Hein. Les copains de l'émission du dimanche soir, comment ça s'appelle déjà, Lulu, viens à mon secours, qui est pour la légalisation du cannabis, s'ils m'entendent, ils vont certainement avoir plein de choses à me reprocher par la suite. Mais bon,
il y a la fumée dans le poste,
merci Lulu. Les copains de la fumée dans le poste auront certainement des tas de choses intéressantes à dire là-dessus. Ils sont pour la responsabilisation, c'est quand même autre chose.
Ouais.
Là, il est embringué dans une consommation
un peu effrénée.
Effrénée, voilà, c'est ça.
En fait, le problème, il s'assomme. Oui, il s'assomme pour dormir.
Voilà. Je pense ça lui sert ça. D'anxiolytique. Quoi.
Voilà. Ouais. Et puis le plus grand souci, c'est que là, c'est aux urgences, mais avant les urgences, entre le CMPP et les urgences, nous avons fait un passage dans un hôpital pour voir un spécialiste des troubles de l'attachement. Cette personne, donc ce professeur, nous a dit que c'était une adoption réussie. Maintenant on le comprend, mais sur le coup, quand on vous jette ça comme ça et que vous êtes totalement démunis, vous perdus et que tout va très très mal à la maison, c'est assez déconcertant. Et donc, il lui a prescrit de la Ritaline. Cannabis et Ritaline, on semble-t-il.
Ah oui, c'est un cocktail détonnant.
Ça a été détonnant.
La Ritaline, c'est le médicament qu'on donne pour les enfants turbulents, les troubles de l'attention et hyperactifs.
La concentration aussi.
C'est quand même pas anodin comme traitement.
Non, et donc, c'est là que les choses se sont vraiment gâtées au point ça s'est déroulé certaines batailles rangées à la maison qui ont fait qu'on s'est dit stop, là on devient tous fous. Ce n'est pas, on peut pas laisser aller ça, quoi, c'est trop dangereux.
Oui, parce que là, ce que vous venez de dire, c'est important. C'est la famille entière qui sombre dans une forme de, folie collective.
Oui, on ne sait plus ce qui va se passer dans la seconde qui suit. On avait cette impression-là, en fait. Vraiment, c'était quelque chose. On est dans une espèce de tourbillon permanent qui fait que on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est très, très perturbant, en fait. Vraiment très perturbant. On est toujours angoissé. Quand on entend une ambulance, on sait que son fils n'est pas là, on se demande ce qui se passe. Enfin, tout est comme ça.
Le téléphone sonne,
en fait.
Vous demandez si c'est pas la police qui
la
vous
police,
appelle.
La police, ça on a eu, oui.
Oui, parce qu'il a eu affaire à
oui,
la police.
Oui, au commissariat aussi. Enfin, la police, oui, parce que. Mais de différentes manières, enfin, étranges. Une fois, donc il était sorti sans notre autorisation. Et. Donc, c'était pas la première fois, et il a découché. Donc, le lendemain matin, on s'est dit, il faut qu'il nous donne des explications. Donc, on ferme les portes, on coupe le téléphone, et il sera bien obligé de venir frapper à la porte. Et il n'est pas venu. Et puis, l'interphone a sonné, et là, c'était la police qui nous disait que notre fils était au commissariat et qu'il fallait rappeler le commissariat. Bon. Donc nous appelons, enfin j'appelle. Et là au commissariat, on me dit que la version de notre fils, il y avait eu un conflit familiale, et donc nous ne laissions plus notre fils entrer à la maison. Sauf qu'il n'était même pas passé à la maison. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on aille le récupérer. Il sentait, je ne sais pas, dans son bon droit, on ne sait pas ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Et donc, là, c'était étrange, parce que c'est lui qui s'était présenté au commissariat.
D'accord.
Des choses étonnantes. De son propre...
Ouais. Oui, mais... Il n'a pas porté plainte contre vous.
Non, il n'a pas porté plainte. Mmh. Mais je pense que c'était un peu dans cette... idée que on allait le récupérer là-bas et que presque ces policiers allaient nous faire la leçon, oui, peut-être. Oui, oui. Il a eu cet espoir, ça s'est passé, oui, pas,
ça s'est pas passé comme ça.
Non, pas vraiment.
Bon. Non, mais on voit bien qu'il y a vraiment une espèce de tumulte, effectivement, ouais, dans l'esprit de votre fils, et puis qui entraîne tout un tas de bouleversements dans vos relations.
Une montée en puissance, oui, de tout ça.
Et puis vous dites quand est-ce que ça va s'arrêter, ouais, hein, quelle va être la prochaine,
voilà, ouais,
quelle va être la prochaine, ouais, la prochaine étape. Mais en plus, ce qui est quand même assez étonnant dans votre histoire, mais je pense qu'elle est malheureusement très très,
elle est assez partagée,
voilà.
Oui.
C'est que vous n'avez pas d'aide,
non,
c'est-à-dire que vous adressez à l'institution psychiatrique, c'est-à-dire que vous essayez, vous dites bon bah voilà, on va trouver des professionnels de la santé psychique, parce qu'a priori les comportements de votre fils relèveraient de cette spécialité.
Oui, voilà, il a été diagnostiqué borderline,
voilà,
après.
Mais ça a mis du temps pour qu'on puisse poser ce diagnostic. Il a fallu combien d'années?
Oh, je veux dire, ça n'a été, nous ne l'avons su que lorsqu'il avait 17 ans peut-être.
D'accord, après des années d'évolution,
ouais,
donc au moins 6, ouais, 7, 8 ans d'évolution,
ouais,
de ses troubles.
Ouais.
On vous a dit, voilà.
Ouais.
Et vous notez dans l'ouvrage que vous avez besoin de mettre des mots, M-O-T-S,
oui,
sur ces mots,
oui,
M-A-U-X.
Oui. Et on nous dit, on ne met pas de mots sur les mots.
Voilà.
Mais si, on a besoin, justement, c'est une nécessité. Et puis, même lire, par exemple, moi, je sais que je me suis gavée de
lecture,
cette,
oui,
de lecture,
bien sûr,
pour essayer de comprendre. Oui. Et on nous disait, n'essayez pas de comprendre. Et un autre psy m'avait dit un jour, mais pourquoi est-ce que vous lisez tant de livres? Vous voulez devenir psychologue? Mais non, j'essayais de comprendre mon fils, parce que en face de nous, quand on avait finalement des entretiens avec certains psychiatres, on ne nous disait rien. On ne nous disait rien, et on nous lançait quelques petites phrases comme ça, mais on n'est pas dans un cadre d'une analyse, donc on a besoin d'autre chose. On a besoin aussi que le psychiatre éventuellement se mette à notre portée, de parents en souffrance quand même aussi.
Et vous dites... On ne vous disait rien?
Non, on ne nous disait rien. Au départ, donc, aux urgences, donc, les choses ont été compliquées. Puis, lors de l'internement qui a duré quand même un mois...
Il faut expliquer, excusez-moi de vous interrompre,
oui,
à ce moment-là, mais les circonstances qui ont conduit à cette hospitalisation.
Oui, alors quand vraiment là, en fait, il y a eu une bataille rangée entre père et fils... qui a fait que c'est devenu intenable. On s'est dit, là, ça devient vraiment,
la
vraiment
raison
dangereux. On ne voulait pas que notre fils sorte.
Voilà, ça vous est,
voilà,
opposé à ce qu'il,
voilà,
sorte, et ils, sont,
ouais,
ils en sont venus aux mains.
Ouais. Ouais. Et mais bon, ce n'était pas la première fois non,
oui,
plus. Hein, donc là, ça allait crescendo, et on s'est dit, mais nous devenons tous fous.
Ouais, ouais.
Donc là, il faut mettre un terme à tout ça. Et notre seule solution, on ne savait pas que faire d'autre, c'était l'hospitalisation. Mais on pensait une hospitalisation, qui apaiserait, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est sûr, c'est une nécessité à ce moment-là, d'autant que effectivement il prenait des substances, ce cocktail était très compliqué, et donc on s'est retrouvé c'était à Sainte-Anne, cet internement, donc c'est extrêmement violent, un internement pour le patient. Mais pour les parents aussi, parce que quand on ne s'attend pas à ça, enfin, on a eu l'impression d'être plongé, pas un siècle en arrière, mais...
Oui, vous décrivez,
très,
les locaux,
très violent.
Vous décrivez,
ouais,
l'accueil,
ouais,
vous
et
décrivez
puis là, tout était
l'ambiance.
Ouais, l'ambiance, parce qu'il y avait des adultes, et c'était le service jeune adulte, donc il y avait des ados de 15 ans, mais aussi des personnes adultes, âgées, et tout le monde circule dans le couloir, et tout le monde est... Très, très inquiétant, surtout quand vous dites que votre fils, il va très, très mal, mais Vous n'avez pas conscience de ce qui se passe non plus, à la fois dans sa tête, mais ce qui se passe autour, là, dans ce couloir, est plus qu'impressionnant. Et donc, on s'est retrouvés, nous, à des entretiens très réguliers, puisque notre fils ne voulait pas se retrouver à côté de nous à ce moment-là. Donc, il ne venait pas aux entretiens. Et on nous lançait des petites phrases de temps en temps. Alors, très souvent, quand même, culpabilisantes. Et sans nous expliquer ce qui se passait, quoi. Si, à un moment, la psychiatre nous a bien dit « Votre fils est résistant », on s'est dit « Ah, ben voilà ». Voilà une chose, la première, en 3 années ou 4 années. Donc, effectivement, il résistait à notre amour, il résistait à tout. Enfin, il ne voulait pas de nous, quoi, grosso modo. C'était censé être rassurant. Et puis après, mais elle disait, mais nous cherchons ce qu'il y a derrière. Alors ça ne nous a pas rassurés du tout, il faut bien le dire. Et puis voilà, donc et puis des petites phrases du style vous dites toujours à votre fils que vous le connaissez comme si vous l'aviez fait. Bon, il n'aime pas ça, mais c'est tout. Et puis en plus, oui, je me dis, mais oui, c'est vrai, je le connaissais comme si il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part, sarcasme, aucune moquerie ou quoi que ce soit. Mais lui était dans, en fait, un délire de persécution. Donc tout ce que l'on pouvait dire, de toute façon, il le prenait comme une persécution. Ouais. Mais les psys ne vous disent pas ça. Donc vous prenez chaque réflexion un peu comme une gifle, réellement. Enfin, moi, je sais qu'au bout d'un certain temps, je me suis dit, je ne peux plus. Je ne peux plus.
Vous avez eu vraiment l'impression que vous n'avez pas eu l'aide que vous attendiez ?
À ce moment-là, non. Après, il y a eu un service de soins de suite qui était excellent. Oui. Et qui surtout a vraiment compris, je pense, la famille, notre état d'esprit. Nous avons un fils aîné, ils ont fait venir notre fils aîné avec Léo. Et tout le monde a discuté et les choses se sont vraiment passées avec sincérité, je dirais, en fait. Et là, ils ont fait un très, très bon travail qui a duré quand même 5 mois d'hôpital de jour, de détricoter, je pense, les raisonnements erronés de Léo. Parce que c'était ça, sa construction, je pense. Il a une construction différente du fait de son vécu et de certainement cette maltraitance volontaire ou involontaire de sa, qui a duré pendant un certain nombre d'années dans sa petite enfance et qui fait qu'il a un autre raisonnement. Et donc, ils ont essayé de revoir tout ça. Bon, il était bien assommé aussi par les médicaments parce qu'il y a aussi ça quand même. Oui. Et quand il en est sorti, ils avaient préparé une sortie vers un soin étude. Là, ça a été une catastrophe. Le soin étude était épouvantable, déprimant au possible. Et on s'est dit, on ne peut pas le laisser là. Alors, c'est ce psychiatre qui nous a dit, donc on lui demandait ce qu'il en était, de nous dire un diagnostic, enfin quelque chose. Ça faisait quand même un certain temps maintenant que Léo avait été hospitalisé. Et donc, il nous a dit, on ne met pas de mots sur les mots. Ah oui, mais bon, ça peut aider aussi. Et puis, l'en a retiré de ce soin étude. Et nous avons, alors là, commis la plus grosse erreur de notre vie. Mais on ne pouvait pas savoir parce qu'on n'avait toujours pas de diagnostic. Donc, on a fait en sorte qu'il retourne dans son collège et qu'il soit suivi dans une maison des adolescents à Paris. Et là, ça a été la débâcle. Vraiment la débâcle complète, au bout d'un certain, très rapidement. D'abord, aucune thérapie n'a été mise en place qui avait été préconisée par Sainte-Anne. Les médicaments ont été stoppés. Enfin, il y a eu arrêt des médicaments. On a senti, nous, que tout glissait, tout partait vraiment à volo. Ils ne nous ont pas entendus. Et je dirais que 5 mois plus tard, c'était de nouveau, on en était au même stade, voire pire, parce qu'il était, on avait l'impression quand même qu'il était tellement pris dans le sens du poil, je dirais, par les psys. Personne ne le cadrait, personne. Et du coup, c'était terrifiant. Et là, on ne pouvait plus rien obtenir. Et les psys, donc à la maison, puisqu'il était le week-end à la maison, on ne pouvait plus rien faire. On n'avait plus aucune autorité. Mais ce qui s'appelle aucune. Et donc les psys nous ont dit à un moment, un jour, alors que notre fils était en entretien avec nous, et l'entretien était assez étonnant parce que, contrairement à ce qui s'était passé précédemment, notre fils était en face de nous, du côté des psys, et non pas avec nous, au milieu de nous, de ce qui s'était toujours passé. Et là, ils nous ont dit, il va falloir que faire des efforts des deux côtés. Mais des deux côtés, mais je leur ai dit, mais attendez, il nous insulte, il nous vole, on ne peut plus le tenir, de toute façon, il sort quand il veut, il rentre ou ne rentre pas. Il n'y a plus d'efforts à faire de notre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils nous disent, oui, mais ça viendra plus tard. Enfin, à l'air de dire, mais on ne peut plus. Enfin, il y a un moment aussi, en tant que parent, je sais pas, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'être soutenu en face, que les psys, quand même, entendent ce que l'on vit. Mais on a vraiment l'impression qu'ils ne nous écoutaient pas.
C'est ce que vous dites à plusieurs reprises hein, dans le texte du roman, c'est que vous avez vraiment l'impression qu'on ne vous croit pas.
Oui.
Qu'on ne vous écoute pas, que ce que vous vivez dans votre famille n'est pas du tout entendu par l'institution ou par les gens qui sont censés vous apporter l'aide dont vous avez besoin.
Entre autres, quand même, c'est arrivé. Donc, c'est la maison de Solène. Il avait quand même été hospitalisé, grosso modo, 6 mois à Sainte-Anne. Ils n'ont pas réclamé le dossier médical de Sainte-Anne. Rien n'a été réclamé. Alors évidemment, ils sont partis. Je pense que chacun veut se faire son idée, poser son diagnostic. Mais là, c'était gravissime. Il nous disait, il fait une petite dépression. Une petite dépression. Mais il ne voyait pas ce que l'on vivait à la maison. Et nous étions des mauvais parents.
C'est ce que vous remarquez dans votre œuvre, dans votre livre. Chaque psychiatre veut avoir son propre point de vue, indépendamment de celui qui l'a précédé.
Oui. Et on en a vu quand même une dizaine.
Et donc, c'est étonnant cette espèce de discontinuité, comme on peut pas imaginer un seul instant.
La sectorisation. On était dans le 92, on est passé donc un CMP, dans le 16e, un peu par chance, parce que c'était le même psychiatre qui nous avait suivi lors de la procédure d'adoption. Et puis après, les urgences, c'était Paris. Par chance, il y avait une place à Sainte-Anne. Et finalement, par chance et malchance, mais par chance quand même, puisqu'il y a eu un très bon travail de fait. Après, on a été envoyé dans le 92. Et puis, on n'a pas cessé de raconter notre histoire en entendant qu'en face de nous, en voyant bien qu'en face de nous. Personne ne suivait, on avait l'impression.
Il est ballotté d'un endroit à l'autre.
Oui.
Et ça, c'est quand même assez ahurissant. Alors, c'est lié à la sectorisation, à la psychiatrie institutionnelle, alors qu'il y a peut-être des aspects positifs. Mais là, en l'occurrence, pour votre fils, là, ça n'a pas été le cas. Et vous vous heurtez à chaque fois devant l'incrédulité des psychiatres. Vous êtes obligé de raconter X fois la même histoire. Et puis chacun d'entre eux se fait son propre avis de manière complètement... Et sur quoi ça repose, en fait, ces avis? Comment ils justifient leur...
Aucune idée.
Il n'y a aucune justification. Ils n'ont pas à répondre personne
non,
de leur...
Jamais. Mais les parents sont tenus de rester à leur place de parents, c'est-à-dire que vous n'avez pas de savoir...
Il y a une forme de mépris quand même à l'égard de...
Il y a un mépris.
Vous l'avez ressenti...
L'a ressenti violemment, mais très violemment, vraiment. Et il y a eu, à la toute fin de l'hospitalisation, quand vraiment là, ça avait tourné à la folie furieuse, et qu'on ne voulait plus récupérer notre fils parce qu'on avait l'impression qu'il nous rendait une grenade découpillée, vraiment. Et eux ne savaient plus que faire. Donc, qu'en faire? Parce que je pense qu'à un moment, d'ailleurs, ils nous ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas réhospitalisé à Sainte-Anne ?» Donc ça, je pense que c'était quand même un aveu d'impuissance. Et puis, ils ont fini par nous dire... À un moment, il y a eu une chose assez cocasse. Mon mari était vraiment malade, avait perdu beaucoup de poids. Et le psychiatre lui demande « Comment allez-vous? J'ai appris que vous étiez malade. » Et mon mari acquiesce. Et le psychiatre lui dit « C'est bon signe. » C'est bon signe. Donc là, on s'est dit, c'est bon signe, mais on peut quand même. Il vaudrait mieux. Oui. Alors, il faut être à l'agonie pour avoir un peu d'empathie pour son enfant. Et donc, moi, je passais pour celle qui était toujours le rock. Donc ça, c'était pas très positif. Et puis, à la toute fin, quand quand on a un peu baissé les bras, parce que voilà, et que la famille, parce que la famille, il y a les psys, mais il y a aussi la famille qui peut s'y mettre éventuellement, donc à récupérer notre fils. Et là, la chef de service de la maison de Solène nous a dit à mon mari, si vous voulez abandonner votre fils, il faut lui dire du fond de votre cœur. Ou avec votre cœur. Là, on s'est dit, elle nous culpabilise parce qu'ils n'ont absolument réussi absolument rien. Enfin, je veux dire, ils ne l'ont pas aidé du tout. Et du coup, bah, voilà, ils culpabilisent. Bon, étant impuissants, ils vont culpabiliser ce qu'ils ont en face d'eux.
C'est une description très juste que vous faites donc du milieu de la psychiatrie que vous avez côtoyé pendant toutes ces années, qui montre d'une part une forme quand même de légèreté hein, dans la prise en charge de votre fils, et en même temps une grande violence à votre égard. Hein, on ne peut pas dire que les psychiatres sortent grandis. À la lecture de votre parcours et de ce que vous en dites aujourd'hui. Alors, là encore, on ne veut pas faire le procès ici de la psychiatrie.
Ni de tous les psychiatres.
Ni de tous les psychiatres, mais en l'occurrence, dans cette histoire précise, en tout cas, telle que vous l'avez...
Et qui n'est pas unique.
Et qui n'est pas unique, parce que vous avez rencontré d'autres parents, j'imagine, au cours de vos préparations. Alors, juste une question, quelle image vous faisiez au départ du milieu psychiatrique? Est-ce que vous aviez un préjugé avant d'être plongé dans ce milieu? Est-ce que vous aviez une idée même vague de ce que ça pouvait être, ou alors pas du tout? Vous étiez complètement innocente vis-à-vis de la psychiatrie ou de la psychologie?
La psychologie, non, pas du tout innocent, parce que nous avions donc perdu un bébé, nous, à la naissance, et donc on a eu un suivi, enfin, on était très intéressés par la psychologie, et voilà, on a fait chacun une analyse, en tout cas une thérapie analytique. Et donc, on était plutôt favorable à ça. Ça nous a fait... Bon, on a eu de bonnes rencontres, entre autres, à ce moment-là. Et je pense que, voilà, c'est une question de rencontre aussi.
Dans ces circonstances, les individus comptent plus que les théories.
Je pense. Ouais. Et le problème, c'est ça. Voilà. Ils sont enfermés dans des théories. Voilà. Et il n'y a pas de sur-mesure, c'est vraiment ça. C'est tout le monde est étiqueté. Et on a vraiment eu ce sentiment-là. Que, en fait, alors il y a, c'est vrai, le côté psychanalytique de certains, d'autres, ça peut être l'ethnopsychiatrie, et chacun fonce, sans regarder la personne en face, que ce soit le patient d'ailleurs, ou
son entourage. Et donc, cette idée que vous aviez de la psychologie, et puis à travers vos expériences personnelles...
Était plutôt positive.
Et elles ont dû être certainement un peu modifiées par la suite. Ou alors, vous avez découvert autre chose, ou un aspect que vous suspectiez, ou que...
Des psychiatres, non, on ne suspectait pas ça. Non, on allait chercher de l'aide. Non, vraiment, je pense que... On y croyait, on n'y croit plus du tout. En tout cas... Sous cette forme-là, je pense qu'il y a un réel besoin, mais de structures complètement différentes, parce que notre fils avait besoin à un moment de faire une pause, mais certainement pas dans un lieu aussi violent, par exemple, que ce service d'internement de Sainte-Anne, probablement. Enfin, il faudrait accueillir, mais je pense que la maison des adolescents, en tout cas à Paris, n'est pas non plus idéale.
Enfin, on a fait des gorges chaudes. Il y a eu toute une campagne quasi publicitaire
autour de cette... Et pour ça, c'est ce qui nous a aussi...
Votre expérience...
A cherché à aller à la maison de Solène.
C'est-à-dire que vous avez voulu...
On a presque postulé. Enfin, il faut envoyer une lettre. On voulait parce qu'on y croyait.
Comment ça se passe? Il y a une liste d'attente?
Je pense que...
Il y a des recommandations? Il faut être envoyé?
Non, recommandations, nous, pas. Moi, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée en expliquant ce qui s'était passé, en expliquant aussi les origines, notre histoire, l'adoption. Ils sont aussi assez portés là-dessus.
D'accord.
Il y a ce côté ethnopsychiatrie qui leur plaît. Et en l'occurrence, je pense que c'était totalement déplacé avec notre fils. Mais on y croyait vraiment. Et en fait, on a eu l'impression, on est tombé des nues. À un moment, même en hospitalisation là-bas, le psychiatre nous disait, mais on ne peut pas changer la manière de penser des gens. Alors, quand il reçoit des ados qui sont suicidaires, anorexiques, s'il se dit d'office qu'il ne va pas pouvoir changer un peu leur mode de pensée.
Oui.
Pourquoi travailler? Pourquoi être psychiatre?
Oui, oui. Et la façon aussi dont ils vous toisent, d'une certaine manière, en vous renvoyant sans cesse à votre culpabilité. Alors, on sait que certains courants de la psychanalyse ont fait de la mère la coupable. On pense particulièrement à Bettelheim, la mère frigo, la mère frigidaire.
Oui, c'est ça.
Et que ça persiste encore, ce genre de mode de pensée aujourd'hui, alors qu'on aurait pu penser
que ça a évolué. Mais j'ai l'impression je ne sais pas, mais que c'est aussi assez propre à la France.
Oui.
Ayant beaucoup lu, je vois ce qui se passe autour. J'ai l'impression qu'en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus évolués. Il y a aussi beaucoup plus de thérapie comportementale. Enfin, et d'ailleurs, pour les borderline, il y a des thérapies qui sont beaucoup plus adaptées ailleurs. Et en France, on ne trouve pas.
On ne trouve pas. Ouais. La France est un des pays, un des derniers pays encore très très marqué par l'influence psychanalytique au niveau de la psychiatrie institutionnelle. Je crois que avec l'Argentine, c'est quasiment les deux seuls pays au monde où la psychanalyse a encore une telle influence au niveau de la psychiatrie institutionnelle et à l'université. Partout ailleurs, aux États-Unis par exemple, la psychanalyse, c'est dans les départements de littérature, de linguistique, d'art.
Oui, on est revenu sur beaucoup de choses.
Mais on a beaucoup changé les modes de pratique. Alors, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs dans toutes ces choses-là, bien sûr, et
ce n'est
pas le cadre.
Contexte.
Mais là, en l'occurrence, les gens à qui vous avez eu affaire sont certainement encore sous une grande influence de ces modes de pensée et d'école. Et en tout cas, quand on vous renvoie à votre culpabilité, c'est typiquement le genre de pensée qui ressort.
Et c'est affreux, parce qu'on est soi-même déjà, on se culpabilise
bien
beaucoup.
Bien sûr, il n'y a pas besoin des psychiatres pour se culpabiliser.
Non, on n'a pas besoin de ça, pas du tout. Vous culpabilisez, les proches éventuellement vous culpabilisent, et allez, maintenant ce sont les psychiatres. Donc c'est vrai que, il faut tenir le coup, c'est pas simple.
Et on va refaire une pause musicale, Lulu, s'il te plaît.
Il a pété des vitrines, saigné contre des latrines, émietté des murs de briques, mis des bleus à l'Atlantique. Il s'est dressé jusqu'en haut de son unique drapeau. Oh, 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 il a porté des menottes, le poing de mon pote. Il a joué à la pétanque, casser des billets de banque, broyer du vent et de l'air, des canettes à Jupiler. Il a tâté des gâchettes, il est mort, il est en miettes. Oh, 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 comme qui dirait en compote, le poing de mon pote. Il est gros comme son cerveau, rigole pas parce qu'il est beau, son cerveau. Et ses chagrins, il a caressé les reins des gentilles et des salopes, le poing de mon pote. C'est une main coupée en deux, c'est une paume clouée par Dieu, c'est un poing qui s'interroge sur ici, sur le Cambodge, sur le prénom de ses doigts et sur tout ce qu'on leur doit. Oh, 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 sur le pape et ses capotes, le poing de mon pote. À force d'empoigner des braises, de chercher l'or de ses rêves, il est dur comme du caillou, mais si pur, un poing c'est tout. Quand il s'ouvre pour quelqu'un, je connais pas de plus belle main. Oh, 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 il redevient une menotte, le poing de mon pote.
« Toujours sur Radio Libertaire, la santé dans tous ses états, la voix sans limite de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, nous accueillons Christine Sagnier pour son livre Roméo à la folie, un roman paru aux éditions Inédit, dans lequel Christine Sagnier raconte sous forme romancée les tourments qu'elle a vécu avec sa famille autour avec son fils. Dans une histoire de cheminement à travers les désordres psychiques et mentaux et la manière dont elle a pu faire face avec son mari et à ce déferlement on peut dire ça comme ça, hein, d'ouragan de sentiments contradictoires et variés, avec beaucoup de difficultés. Et on parlait juste avant la pause donc de l'attitude des psychiatres et de la psychiatrie. Et encore une fois, je le répète, on n'est pas en train de faire le procès de la psychiatrie et des psychiatres. Simplement, on raconte une histoire vraie qui s'est passée et dont on peut malheureusement penser qu'elle est, assez typique de ce genre de situation. Ce qu'on disait, c'est que finalement, on a pu poser de diagnostic sur l'état psychique et mental de votre fils que très tardivement.
En tout cas, on nous l'a donné très tardivement.
On vous l'a donné très tardivement, mais comme si ces psychiatres et ces spécialistes du psychisme, ou en tout cas se présentant de cette manière, n'étaient pas capables d'avouer à un moment donné leur ignorance ou dire simplement pour l'instant on ne sait pas.
On ne sait pas, et surtout, allons-y ensemble, travaillons ensemble, on ne sait pas. Mais il y a un manque d'humilité, je pense, énorme en fait. Et puis, parce que vous disiez tout à l'heure, on avait l'impression, finalement, on avait notre fils tout puissant et on avait l'impression d'avoir face à nous des psychiatres tout puissants également.
Tout puissants dans leur ignorance.
Voilà, dans leur ignorance.
Hein, et qui vous renvoyez, vous, dans les cordes, en vous chargeant de tous les maux de la terre. Vous étiez responsable, finalement, de tout ce qui pouvait arriver à votre fils.
Ce qui est assez, d'autant plus étonnant, je dirais, qu'en l'occurrence, il avait là un passé très très compliqué. Donc ils auraient pu aussi se poser des questions sur ce passé et les traumatismes.
Ils ne l'ont pas abordé à aucun moment.
En tout cas, pas tellement avec nous. Si, de temps en temps, ils nous disaient oui, mais vous savez, il ne peut pas faire confiance en l'adulte. Vous comprenez ? L'air de dire comme si c'était une nouveauté pour nous. Il y a des choses, mais c'était ahurissant parce que on savait ça depuis toujours, mais eux ne nous écoutaient pas. De temps en temps, ils avaient l'impression de nous apporter un éclairage extraordinaire. En fait, ils ne savaient rien, quoi. Ils ne savaient vraiment rien.
Ce témoignage, donc, il est très instructif, d'abord pour connaître un peu l'état dans lequel se trouve une certaine psychiatrie de l'adolescent aujourd'hui, qui malheureusement ne semble pas être à la hauteur des attentes que peut avoir une famille, même. Même dans un cadre, on peut dire, moins explosif ou moins violent que celui que vous avez vécu, on voit bien. Moi, je vois dans ma pratique quotidienne de médecine d'urgence, effectivement, des appels qui viennent de familles désespérées parce que leurs jeunes adolescents sont dans des situations terrible et ils ne trouvent pas de réponse à leur besoin d'aide. Alors c'est compliqué, je ne dis pas qu'il y a des réponses toutes faites, c'est certainement pas simple, mais comme vous expliquiez tout à l'heure, lorsqu'on hospitalise des jeunes dans des structures qui ne sont pas faites pour eux, dans des environnements extrêmement durs, violents, l'image qu'ils peuvent en récupérer sur eux-mêmes, et puis la façon, quand on ne va pas bien ici, on va dans un endroit qui est...
Mon fils me disait qu'à ce moment, puisqu'on en a reparlé de tout ça, il me disait que justement, il se disait lui-même à ce moment, mais je suis avec, parce qu'il y avait des gens qui hurlaient, des gens attachés à leur lit, et il se disait, mais je suis avec des animaux, est-ce que je suis comme ça, est-ce que moi je suis comme ça, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis... Et puis après, il est retombé dans quelque chose d'un peu plus posé, et puis c'était quelque chose de absolument pas rassurant pour le coup, ça je pense que...
Aujourd'hui, donc plusieurs années sont passées depuis les faits que vous relatez. Comment va-t-il ?
Il va beaucoup mieux. il a réussi à se poser sans plus voir de psychiatre.
Donc là, il est en dehors de tout circuit psychiatrique.
Oui,
il
y a pas plus de médicaments, pas de suivi,
plus de médicaments.
Rien. On a l'impression que, en fait, cette pause affective, même si nous, on n'imaginait pas ça du tout comme ça, et ça a été très violent puisqu'on ne s'est pas vu pendant 3 ans, mais que cette pause affective a fait qu'il a pu se trouver lui-même. Et que, comme si son identité, qui était un peu totalement éclatée, il n'arrivait pas à vraiment à exister. Il n'existait peut-être que par rapport à nous, à son frère, à mon mari, à moi. Et tout d'un coup, il a pu, justement, tout le puzzle s'est remis en place. En fait, s'est mis en place. Voilà.
Donc là, il est...
Il est posé... je pense qu'il y a encore, il sait, du travail à faire, des choses un peu compliquées, gérer ses émotions, différentes choses. Mmh. Mais en tout cas, il a un objectif, ce qui est énorme. Il a des envies, il a... Voilà, donc ça c'est considérable.
Donc, on est plutôt rassuré, on peut l'être au moins pour votre fils. Il est sur une voie qui semble être tout à fait... encourageante.
Ouais.
Vous terminez votre récit par un passage, j'ai trouvé plein d'humour. Et je vous l'ai dit tout à l'heure avant que nous commencions cette émission, pour vous, ça a été une forme de libération. Vous avez, à travers ce texte, voulu exprimer tout ce que vous aviez ressenti,
voilà.
Je pense.
Donner la parole aux parents.
Voilà. Alors, vous dites que vous êtes inspiré aussi d'autres,
voilà,
d'autres histoires.
De différents témoignages
que
j'ai lus ou recueillis. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un peu un condensé. C'est très dense.
Voilà.
Le personnage, l'enfant est très dense.
Mmh.
Et la psychiatre, qui est un des personnages principaux, l'est aussi. C'est une synthèse.
Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a une crise vraiment extrêmement violente. Vous êtes vous-même en proie à des émotions contradictoires et extrêmement fortes. Vous avez du mal à faire la part des choses. Et puis là, vous décidez, sur une impulsion, après avoir pris un petit peu de benzodiazépine, de passer à quelque chose d'un peu plus fort. Bon, je répète, c'est le roman.
Oui, c'est
là,
un
hein.
roman, c'est
là,
un
c'est,
roman.
Là, c'est la partie romancée.
Oui.
Et là, on va faire plaisir à nos amis de la fumée dans le poste, parce que vous passez donc à la consommation de cannabis.
En tisane, quand même.
En tisane, oui, en tisane, parce que vous ne fumez pas.
Je ne fume pas, alors. Je fais ce que je peux.
Et là, sous une impulsion assez soudaine, d'abord, vous éclatez de rire, vous racontez ça très bien, ça vous amuse beaucoup. Là encore, hein, nous ne faisons aucune promotion pour quelque produit que ce soit. Hein, c'est simplement nous racontons ce texte complètement romancé, bien sûr. Et donc, sous l'emprise donc de ces psychotropes, vous décidez d'aller voir cette psychiatre qui vous toise de haut.
Voilà, et qui doit me rendre des comptes.
Et qui doit vous rendre des comptes. Et alors là, vous racontez cette rencontre assez...
épique.
Assez épique. Je vous laisse la parole.
Bah, en fait, pris par, je pense, cette espèce de substance. Donc, c'est vrai que le personnage...
Certaines inhibitions.
Voilà, oui, là, elle est totalement désinhibée, c'est clair. Et elle va suivre la psychiatre, qui ne veut toujours pas lui répondre, d'ailleurs. Et puis, jusqu'au bout, elle essaie d'obtenir quelque chose. Puis, finalement, elle se dit qu'elle va se venger. Et que la vengeance, ça fait du bien.
Voilà.
Je ne dirai pas.
Oui, on va pas dévoiler.
Voilà, je venge toutes les mères.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
C'est une
toutes
forme
les mères
de...
qui ont été culpabilisées par des psychologues ou psychiatres.
Oui, non, mais c'est une façon pour vous d'évacuer un trop-plein de... Peut-être pas de rancœur, mais au moins d'une certaine forme de...
D'injustice. Moi, j'avais un vrai sentiment d'injustice.
Oui.
Un vrai sentiment d'injustice.
On peut comprendre
C'était très difficile.
On peut comprendre tout à fait cette...
Aucune bienveillance.
Cette émotion. Et oui, le manque...
Très peu.
Vous parlez même à un moment donné de maltraitance que vous avez eue, que vous avez ressentie à votre égard.
On a ressenti ça. C'est vrai qu'à force, on se dit, mais c'est de la maltraitance. Il y a vraiment une volonté de... Je ne sais pas, envers le parent de l'écraser, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la déconsidération totale. Ne pas vouloir le reconnaître en tant que parent qui est bon et plus, enfin voilà,
comme simplement tous les parents, bon, en fait, comme tout,
voilà,
là,
avec, faisant des erreurs et parfois de belles choses, mais faisant aussi plein d'erreurs.
Bien quoi, sûr,
voilà.
Et c'est, oui, c'est
pas
le,
parfait,
c'est,
quoi,
c'est le cas de la plupart des parents. Mmh. Vous aujourd'hui, vous avez pris du recul et votre témoignage sous forme de roman vous a permis déjà de libérer toutes ces émotions accumulées au fil des années. Votre fils va mieux, il est en phase de récupération. Ce qu'on peut lui souhaiter, bien entendu, c'est d'aller vers
d'être toujours heureux, vers le mieux, et voilà, et de trouver son équilibre,
son équilibre,
et puis construire un
et de construire son avenir, voilà, de manière la plus ouverte possible. Et puis ce texte finalement, ce qu'il apporte à la lecture à sa lecture, c'est que rien ne vaut finalement une forme de compétitivité. Et puis vous avez gardé quand même un regard distancié.
Oui, mais probablement grâce un peu à l'écriture et aussi à la lecture. Beaucoup lire pour comprendre. Je pense que c'est ça. C'est ça qui m'a permis, moi, je pense, d'être en bonne santé encore et de pas, même si parfois, moi je ne dormais plus. Hein, j'étais vraiment au stade à me dire, je vais me taper un bon coup de marteau sur la tête pour dormir. Et ça, vraiment. Et je trouve que après une telle expérience, on est tellement bousculé, les fondations sont vraiment, on a l'impression, c'est tout ça a tout remué. Et moi, j'ai ressenti la nécessité de faire de une thérapie qui est EMDR, et je trouve que ça m'a énormément aidé, vraiment. Et ce sont d'autres méthodes, voilà, qui sont justement dont on ne parle pas dans ces hôpitaux. Et qui pourrait peut-être aider aussi certains patients, en fait.
Certainement,
hypnose,
certainement.
MDR et autres.
En tout cas, c'est un témoignage tout à fait intéressant, utile et passionnant. Je pense que des parents confrontés à ce genre de situation auraient beaucoup d'intérêt à le lire. C'est pas des recettes, il n'y en a pas. Hein.
Ah non,
vous
ne
donnez
pas.
Aucune recette.
Aucune.
Vous donnez aucune. Il n'y a pas d'explication. C'est
non.
Pas un énième. C'est pas du développement personnel.
C'est
pas
de la psychologie. C'est vraiment un roman.
C'est un roman.
Humoristique aussi, je pense. Et puis tendre.
Tiré d'une expérience personnelle et une expérience difficile, mais que vous avez su surmonter avec beaucoup de courage, d'opiniâtreté en tout cas. Merci Christine Sagnier pour votre témoignage.